Chapitre 56. Charcot suivit les conseils de Serge et rentra chez lui pour se poser quelques heures. Même si un technicien était passé, il toucha la poignée seulement après avoir enfilé ses deux gants en cuir sur la même main. Puis il se débarrassa de ceux-ci dans le vide ordure de sa cuisine et usa la moitié d'un rouleau de sopalin pour désinfecter la surface arrondie à l'eau de Javel. Sa serrure n'avait pas été forcée, mais il décida malgré tout d'en changer dans les meilleurs délais. Peut-être même ferait-il installer une porte blindée. Il ferma à clé, glissa la chaînette dans son compartiment et cala une chaise sous la poignée. Madly souffrant n'était plus de ce monde, certes, mais Franck sentait encore sa présence entre ses murs. Il lorgna autour de lui en silence. Sa gorge se serra. Il se revit, chutant, gisant au sol. Son impuissance. Il remit l'étagère renversée en place. Il vérifia toutes les pièces et découvrit sous la table basse de son salon une grosse mouche morte sur le dos, les pattes recroquevillées. Une Califhora vomitoria, comme sur la scène de crime. Qu'est-ce que cette espèce fichait dans son appartement en plein hiver? C'est elle qui l'a déposée là, songea-t-il, la sorcière. Elle a voulu me jeter un mauvais sort. Il la saisit du bout des doigts et la balança par la fenêtre. Après quoi il se lava, ou plutôt se récura jusque sous les ongles, et quand le morceau de savon eut disparu entièrement tant il avait frotté, il se dit que son esprit ne tournait plus rond. À 5 heures du matin, il s'effondra finalement, en caleçon sur son matelas. Son cerveau se déconnecta en moins d'une seconde, comme un appareil électrique qu'on débranche d'un geste sec. Un sommeil profond s'empara de lui, dont il n'émergea qu'en milieu de matinée, la tête en vrac. Il eut alors besoin d'un peu de temps pour prendre conscience que les événements de la veille s'étaient bien produits. Ce n'était pas un cauchemar, il avait failli y rester. Tout était allé si vite, si loin. Une fois habillé, Franck regarda dehors, écartant le rideau de la vitre. Un pâle soleil d'hiver inondait la rue de lumière. Les trottoirs avaient repris vie, des voix et des coups de klaxon s'élevaient, et toute cette agitation lui réchauffa le cœur. Il se prépara un café, puis se dirigea vers le fax. Rien de neuf. Il décida qu'il ne parlerait pas de ce qui s'était passé à Suzanne. À quoi bon l'effrayer? Comment pourrait-elle vivre dans cet endroit si elle apprenait que des intrus avaient tenté de l'y tuer? Non, ils préserveraient leur cocon. Charcot ferait tout son possible pour protéger sa fiancée de toute cette crasse, de cette misère, de ces ténèbres. Pour ça, il cloisonnerait sa vie professionnelle et sa vie privée. Ni Serge ni les autres ne viendraient ici, et lui n'irait jamais chez eux accompagné de celle qu'il aimait. Il rangea avec les autres le fax qu'il avait parcouru alors que la menace de la Bocor planait déjà, et adressa un regard lourd aux photos des disparus. Déçu que cette piste en laquelle il avait tant cru ne soit pas la bonne. Mais en était-on certain? D'après Amandier, le légiste avait été formel. Des ciseaux d'urgentiste ne pouvaient pas être l'arme du crime. En tout cas, pas le modèle qu'il lui avait présenté. Mais pouvait-il s'agir d'un autre genre? Le personnel des urgences avait-il du matériel différent de celui des ambulanciers? Existait-il plusieurs déclinaisons de ciseaux, plusieurs tailles et courbures de lames? Franck referma le tiroir avec un soupir. Des hypothèses, encore et toujours. Il s'était peut-être simplement planté depuis le début. Ces histoires d'intervention dans les immeubles des victimes n'étaient peut-être que le fruit du hasard. Mais peut-être pas. Et ce doute lui était insupportable. Il refusait d'abandonner. Il devait aller au bout de son idée, malgré les discordances. Il consulta le Minitel, décrocha son téléphone, se présenta à son interlocuteur, et peu de temps après, il parlait avec un responsable du service technique de Gaz de France. Sa requête était simple. Il voulait connaître la date exacte à laquelle des équipes avaient été envoyées rue de Julienne, dans le 13e arrondissement, aux alentours du 3 mai 1987, date de la mort de Dalida. L'informatisation d'une partie de leur système depuis le milieu des années 80 permit à l'opérateur d'obtenir cette information en 5 minutes. L'incident s'était produit le mercredi 6 mai, en début d'après-midi. L'homme précisa que, selon la procédure, deux camions de la brigade des sapeurs-pompiers du boulevard de Port-Royal, ainsi que le SMUR de la Pitié-Salpêtrière, avaient été sollicités pour sécuriser le travail des techniciens. Il ne put fournir davantage de détails, mais c'était suffisant. La Pitié-Salpêtrière, l'un des plus gros hôpitaux de Paris. Franck se rappelait la note de Titi dans la bulle. Elle disait que la personne brûlée par l'incendie dans le bâtiment où logeait la troisième victime en 1988 avait été emmenée à Saint-Antoine dans le 12e, et non à la Salpêtrière, ce qui remettait complètement en cause ses intuitions. À moins que le tueur n'ait été employé dans deux établissements différents à un an d'écart, ou alors qu'une ambulance de tel hôpital puisse déposer un patient dans tel autre hôpital. « Ce n'est pas un urgentiste, petit », C'est un fantôme qu'on n'attrapera jamais. » La sentence résonnait encore dans la tête du jeune inspecteur. Il ne savait plus à quel saint se vouer. Sans doute avait-il tort de s'acharner ainsi. Il finit par lever le camp et rejoignit le 36. Là-bas, il régnait une sorte d'effervescence dans les couloirs. Ses aventures de la nuit avaient déjà fait le tour des bureaux. Charcot se prenait des tapes amicales dans le dos. On demandait de ses nouvelles. En 2 semaines, il était passé du statut de bête noire à celui de collègue à qui on avait envie de serrer la main. « S'il faut presque crever pour ça », songea-t-il avec un soupir. Il débarqua au 514 avec des viennoiseries encore tièdes. Santucci se tenait debout côté salon, face à son groupe. Manquait seulement le glaive. Franck proposa ses victuailles à son chef qui piocha un croissant et maugréa un vague merci. Puis il tendit le sachet aux autres. Malgré le brief tardif, ses coéquipiers affichaient tous des gueules de lendemain de fête. Ils n'avaient pas dû beaucoup fermer les yeux. « T'es remis ?» fit le Corse entre deux bouchées. « Ça a l'air, » répliqua Charcot. « En tout cas, si je suis ici, c'est que je ne suis pas mort. »« Ça m'arrange. Parce que c'est aujourd'hui qu'on se fait les entreprises de serrurerie. On va sérieusement se rapprocher de cet enfoiré. Ah, au fait, j'ai un petit surnom pour lui. Le serrurier. » Franck adressa un regard à Florence qui haussa les épaules. « Le serrurier. » Au moins, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Santucci indiqua le tableau avec son croissant. Son ton envers le jeune inspecteur et envers eux tous, d'ailleurs, avait changé. Plus de mépris ni de haine. Juste des flics menant le même combat. « On venait de commencer un point sur les nouveaux éléments de la nuit dernière, » poursuivit-il. « Alors, vite fait, pour résumer. Glichard est toujours à Marly-la-Ville avec les gars du SRPJ de Versailles. Ils prennent le relais. Quant à Madly Souffrant, c'est aux alentours de 3 heures que la BRI a retrouvé sa trace. » Elle s'était planquée au bord d'un champ. Elle était piégée comme un rat. Elle a préféré s'ouvrir la gorge avec un couteau qu'elle avait sur elle plutôt que de se faire choper. « Pas une grande perte, » dit Serge avec nonchalance tout en mâchant. « Ça aurait été mieux qu'on l'attrape vivante, mais je ne la pleurerai pas non plus. Ce dont on est sûr pour l'instant, c'est qu'elle avait 52 ans, qu'elle vivait seule et qu'elle était propriétaire de la boutique de la Goutte d'Or. Apparemment, elle faisait 1 ou 2 allers-retours par an en Haïti. Pas d'antécédents judiciaires. » Santucci écrasa la pointe de son marqueur sur 2 noms. Joseph Cavana et Tidjane Senelli. Leur discours s'accorde. Ils n'étaient que des besogneux que Souffrant appelait quand elle avait besoin de bras. Ce qu'ils nous ont raconté est précieux et permet d'établir une chronologie plus précise des événements. Comme pour illustrer son propos, il traça un trait horizontal et inscrivit des dates. Si on reprend tout depuis le début, on sait, d'après son calendrier, que Delphine Escrémieux quitte son appartement parisien pour sa résidence de Saint-Forgé le 15 novembre. Elle s'installe là-bas, peint, mène sa petite vie tranquille. Le 30, la camionnette débarque en pleine nuit. Nos gus sont à l'arrière, Souffrant et le serrurier à l'avant. Ils empoisonnent Escrémieux avec la poudre zombie, puis l'enferment dans un cercueil qu'ils emportent à Saclay. Enfin, ils l'enterrent. « Un vrai cauchemar !» soupira Florence en versant du jus d'orange dans un gobelet. « Exact. Et son cauchemar ne fait que débuter. Plus tard, il la sort de son trou et l'abandonne dans la porcherie à moitié nue. Son cerveau est en compote, elle est incapable de s'enfuir. » On peut supposer que le serrurier lui rend visite de temps en temps pour jeter un œil, la nourrir un minimum, lui raser le crâne et le sexe, la violer avec son matos. Nous, on la découvre dans un état squelettique le 17 décembre. Il nota ces informations. Autre pan de l'affaire, autre victime. Hélène Lemaire. Elle habitait le bœuf. Selon les gars du SRPJ de Rouen, elle est au boulot jusqu'au vendredi 29 au soir, mais ne s'y présente pas le lundi 2 décembre. Autrement dit, il s'occupe probablement d'elle juste après s'être chargé de Delphine. « Mais sans Cavana et Senelli, » compléta Amandier. « Il n'y a pas de caisse à transporter cette fois. » Santucci acquiesça. Notre serrurier pénètre chez le maire, sans doute la nuit, seul ou avec la sorcière. La jeune femme lutte dans la chambre, mais il la force à s'habiller, puis il la conduise dans la cave de Marly, où il la retient prisonnière. Il fit glisser son marqueur vers la droite et plaça de nouvelles croix sur sa frise. Ensuite, le jeudi 5 ou le vendredi 6, direction Saint-Forgé, où ils lui font subir les pires saloperies avant de la tuer. Les lettres sont déjà prêtes dans le fourgon et postées par nos gardés à vue le samedi 7. On tombe sur son corps dans la nuit du 10 au 11. « Une putain d'organisation millimétrée !» lâcha Serge en s'arrachant de son fauteuil et en s'approchant du Velux, où il s'alluma une clope. Charcot s'appuya contre le mur, pensif. « Je crois que le serrurier était seul à Saint-Forgé quand il a assassiné Hélène. » « Qu'est-ce qu'il veut dire, ça ?»« C'est son crime, le résultat d'un plan qu'il élabore avec méthode depuis longtemps. Pour rien au monde, il ne partagerait ce moment-là. Rappelez-vous, les yeux, la bouche dessinée sur le sac en papier. Les photos d'enfants nus, toute cette mise en scène avec les casseroles d'eau, les radiateurs à fond. Tout ça ne concernait pas Souffrant. C'était beaucoup trop intime. Les visages étaient tournés vers lui. Cette fois, on l'écoutait religieusement. Je parierais qu'il était seul aussi lors de l'enlèvement d'Hélène Lemaire. Ces choses qu'il a peintes sur les murs, ses gamètes, Houdini, là encore c'était très personnel. Tout comme il s'occupait certainement seul de Delphine dans la ferme abandonnée de Saclay. À mon avis, la Bocor n'était qu'un outil, un fournisseur de drogue, un sbire prêt à aller très loin pour de l'argent. Un silence plana un instant. Serge ouvrit le Velux et un courant d'air glacé s'invita dans la pièce. Dans ce cas, pourquoi notre méticuleux ou serrurier, nommez-le comme vous voulez, aurait enfermé Hélène Lemaire dans la cave de Souffrant ? Demanda-t-il. Tout simplement parce qu'il vit en appartement et qu'il n'a pas de place chez lui. Parce que c'était trop risqué de la maintenir vivante à Saint-Forget pendant toutes ses journées, ou peut-être il devait parfois s'absenter. Ses allers-retours ne seraient pas passés inaperçus dans le village. Et puis des gens se promènent dans les bois aux abords de la maison. Quelqu'un aurait pu l'entendre crier ou elle aurait pu se libérer et s'enfuir. Santucci fit claquer son marqueur contre le tableau pour attirer l'attention. Tout ça nous conduit maintenant à nous intéresser précisément à lui, le serrurier. D'après les deux auditions, on sait qu'il porte toujours la barbe, potentiellement une casquette, que ses cheveux sont courts, plutôt foncés. D'après Senelli, il serait svelte, de taille moyenne, intervint Florence. Il ne l'a jamais vu de face, mais il estime à son allure qu'il est jeune. 25, 35 ans. Ah, et il porterait des lunettes. Le corps s'approuva d'un mouvement du menton. Il en porte, il n'en porte pas, enfin bref. Tout ça, ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait suffire. Il décrocha la liste des entreprises établies par le glaive et poursuivit. Je vous rappelle que nous avons 10 adresses à visiter en priorité, toutes situées dans le 9e. Il agita la feuille devant lui. Charcot et Amandier, on bouge. Je vous accompagne, on sera pas trop de 3. Et on ne se sépare pas. Franck regarda en direction de Florence et Einstein. Il lut une forme de déception sur leur visage. C'était peut-être le jour où ils allaient attraper l'homme qu'ils traquaient, et chacun voulait en être. Évidemment, le Corse ne se gênerait pas pour s'en attribuer toute la gloire. « Ne négligeons pas l'hypothèse selon laquelle on pourrait se retrouver face à lui, » recommanda Santucci. « Mais possible aussi qu'il soit en congé ou qu'il ne travaille plus dans l'une de ses sociétés. De toute façon, on devrait récolter des infos. Et si ça ne fonctionne pas, on élargira aux autres arrondissements. » Santucci scruta le reste de l'équipe. « Fayol, tu continues avec les gaves. On presse encore un peu les jeunes pour être sûr qu'ils n'ont plus rien à cracher avant de les balancer au dépôt. Et toi, Ferriot, tu t'occupes de cette magicienne, c'est ça ?»« Oui, Caroline Brandier. Elle m'a dit qu'elle passerait dans l'après-midi. » Il y a moyen qu'elle ait eu affaire à André Escrémieux quand elle était gamine. Elle connaissait l'hôpital Meurin. Bref, elle a des choses importantes à raconter. Ok. Le glaive sera rentré et prendra la déposition avec toi. Le corps eut un air satisfait. Les pièces s'emboîtent. Je sens que ça va être une journée fructueuse. On va la lever, cette affaire. Ce serait une belle manière de finir l'année 91. Il frappa dans ses mains et enfila son blouson. Allons faire tomber la tête de cet enfoiré.